Canada. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, il est très difficile à présenter en fait parce qu'il a tellement de casquettes sur la tête. D'ailleurs, il n'y en a aucune aujourd'hui. Mais il y en a tellement que...
Il y en a tellement que j'ai perdu mes cheveux.
Donc Jean-Louis Lauter, bien sûr, de science-fiction, historien des techniques, épistémologue, fondateur d'une liste qui s'appelle SF-Franco.
C'était la préhistoire de l'Internet vers 1993. À la première liste de discussion sur Internet consacrée à la science-fiction en français. Elle existe toujours, mais elle est beaucoup plus tranquille maintenant parce qu'il y a une infinité de forums maintenant, d'autres listes, plus Facebook.
Est-ce que tu penses qu'elle a beaucoup contribué à la réunion des Canadiens et des Français pour le coup ?
Je pense que pendant quelques années, quand même, elle a permis à un certain sentiment de fraternité, de solidarité de se mettre en place. Le paradoxe étant évidemment qu'elle a joué un rôle central tant qu'Internet n'a pas été, disons, un phénomène complètement présent. Et donc, c'était à une époque où tout le monde n'était pas sur Internet, par définition. Du coup, c'était une partie de la population des auteurs au Canada et en France qui communiquait par cette liste. Et lorsqu'à un moment donné, l'Internet s'est généralisé, et à ce moment-là, tout le monde était sur Internet, mais ne s'est pas retrouvé sur cette liste parce qu'il y avait à ce moment-là beaucoup d'autres endroits. Mais ça, je pense que ceux qui ont connu la liste durant les années 90 en gardent un certain souvenir ému.
Y en a-t-il parmi nous?
Apparemment pas.
Alors Jean-Louis, tu es non seulement...
Quoique j'ai croisé Joël Vintrebert en bas et je pense qu'elle a été sur la liste quelques années.
Un ensemble de gens qui échangent des idées ensemble.
Ah oui, il y avait des très grandes discussions parfois aussi. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus beaucoup sur Facebook et franchement, les forums, pas si souvent. Il y avait des messages qui prenaient parfois des proportions invraisemblables. Des messages comptaient pratiquement en milliers de mots et je n'inclus même pas nécessairement les parties que l'on citait. Et ça pouvait devenir assez enflammé, et, pas enflammé dans le mauvais sens, mais vraiment enflammé dans le sens plutôt de la prolixité. Des très grands messages avec des développements historiques, scientifiques, vulgarisateurs et autres.
Est-ce que ça donnait des ouvrages, des idées d'ouvrages en tout cas?
Je pense que ce genre d'intervention pour des auteurs, ça accompagne plutôt la réflexion de l'auteur sur le monde ou sur son œuvre. Je ne vois pas trop d'ouvrages qui, disons, aient été inspirés par la liste ou aient fait référence à la liste. Ça, même en cherchant du côté de gens comme Laurent Jeunefort ou Ayerdal, il faudra peut-être lire certains de ces auteurs, mais je ne crois pas. Et évidemment, en même temps, il y avait d'autres mécanismes de discussion qui ont inspiré d'autres auteurs. Werner Vinge, dans Un feu sur l'abîme, lui, s'inspire assez clairement, par exemple, des listes de discussion du côté anglophone, mais surtout de ce qu'on appelait Usenet à l'époque, sur lequel j'ai aussi été à partir de 89, puis à partir d'un certain moment, je n'ai plus été là parce qu'il n'y a pas assez de temps. Du côté francophone, c'est moins clair. Jean-Claude Dugnac était... C'est ça, je pense qu'on a... C'est vague, mais je pense qu'on a commencé la liste avec 3 ou 4 personnes. Hein. Il y avait Jean-Claude Dugnac, il y avait moi-même, il y avait Yves Ménard. Je me souviens plus des autres.
Mais Yves, tu t'en souviens bien.
Pardon?
Yves, tu t'en souviens bien.
Oui, Jean-Claude Dugnac aussi. Et il faudrait que... Ouais. Mais d'ailleurs, malheureusement, je pense que les archives, malheureusement, des... je pense que j'avais calculé l'autre jour que peut-être le premier mégaoctet d'archives introuvable, a priori, malheureusement. Donc, il y a peut-être l'auteur canadien Carl Schroeder qui aurait peut-être une copie archivée quelque part parce qu'il était le propriétaire de la liste, tandis que j'étais le maître de la liste. À l'époque, on travaillait tous les deux dans le même bâtiment à l'Université de Toronto. Et il travaillait 2 étages en dessous et on était tous les deux des écrivains débutants en science-fiction et il a fait une très bonne carrière depuis. Féconde à certains égards, mais une belle carrière aussi, oui.
Tu parles d'une centaine de nouvelles, c'est une longue carrière, ça.
Oui, oui, une centaine de nouvelles, une trentaine de livres, selon la façon de les compter.
Alors justement, littérature jeunesse, littérature adulte, Jean-Louis Trudel, Macalister, comment tu gères tout ça, est-ce que c'est tiens, je vais faire un roman jeunesse, tiens, je vais faire un roman, comment ça se passe?
Ben, à la rigueur, ça se passe parfois par les occasions qui se présentent. Bon, par exemple, pour remonter, effectivement, bon, si je remontais au début de ma carrière littéraire, là, on parle de nouvelles. J'essaie de me souvenir, d'ailleurs, c'est tellement lointain. Je pense... Oh là là. Dans quel... Oui, enfin, je pense qu'à l'origine, il y avait un projet littéraire, celui d'écrire une histoire du futur. On était dans les années 80, j'étais inspiré par des auteurs comme Heinlein, Horace H. Beam Piper, Paul Anderson, Asimov aussi, évidemment, qui avaient écrit des histoires du futur. Et bon, et à un moment donné, j'ai écrit la première nouvelle, je l'ai envoyée à une revue canadienne de science-fiction appelée Imagine. Elle a pris la nouvelle, et donc du coup, je me suis mis à envoyer des nouvelles de façon régulière à cette revue, et j'ai fini par publier un certain nombre de choses dans cette revue, y compris un roman feuilleton qui est plus tard devenu un de mes deux romans parus au Fleuve Noir. Et en 94, justement, si on regarde ça, la question des occasions et comment... Parfois, il y a une sorte de mécanisme qui s'enclenche et on poursuit sur une lancée, sur un élan. Alors, en 94, j'ai interrompu un doctorat en astronomie, j'ai décidé de changer de domaine. Et comme j'avais, je pense, quelques mois... Ah non, attends. Oui, je pense que c'était quelque chose comme ça. Et comme j'avais quelques mois, j'ai décidé de reprendre les manuscrits de deux romans qui étaient parus, deux romans qui étaient parus en feuilleton dans des revues et fanzines québécois. L'un d'eux, je pense que j'avais encore les fichiers électroniques. L'autre n'existait que sous forme de manuscrit tapé à la machine. Ça vous dit l'âge. Et en 94, donc j'ai pris celui qui existait sous forme de fichier. J'en ai fait un roman. Je l'ai envoyé au Fleuve Noir. Le Fleuve Noir l'a accepté. C'était Pour des soleils froids, 1994. J'ai pris le roman qui était paru dans les années 80 dans la revue Solaris. J'ai pris le manuscrit, j'ai tout retapé à l'ordinateur. Je l'ai envoyé au Fleuve Noir, qui l'a pris, qui l'a publié. J'ai écrit un troisième roman. Je l'ai envoyé au Fleuve Noir. Le Fleuve Noir a dit, je vais sembler un peu égocentrique, mais c'était assez clairement dit, ceci est trop bon pour nous, envoyez-le ailleurs. Donc, du coup, ça m'a un peu coupé dans mon élan au Fleuve Noir. J'ai envoyé le manuscrit à deux ou trois autres endroits, chez J'ai lu, ça ne les intéressait pas. Mais par contre, pendant ce temps, au Canada, le même mois, en 1994, mon premier roman pour jeunes était sorti. C'était d'ailleurs quelque chose que je travaillais dessus depuis pratiquement 6 ou 7 ans. Bon, l'éditeur l'a pris, il l'a publié, mon premier roman pour jeunes. J'en ai écrit un autre, il l'a pris, et ainsi de suite. Cet éditeur-là, je pense, ne m'a jamais refusé de roman pour jeunes. Donc, j'ai continué essentiellement jusqu'à... Comme mon intérêt à moi baisse un peu, disons, entre autres, face aux ventes relativement réduites de ces livres-là. Donc, c'est parfois comme ça que ça marche. Lorsqu'il y a une ouverture, on l'exploite et on continue dans cette voie. Laurent Macalister, c'est l'histoire de mes collaborations avec un écrivain canadien qui s'appelle Yves Ménard, on s'est rencontrés pour la première fois à un congrès de science-fiction en 86. On a concouru tous les deux pour le concours d'écriture sur place, d'une nouvelle sur place. Je pense qu'il s'est placé premier, que je me suis placé second. Donc on s'est mis à parler, on a trouvé toutes sortes d'atomes crochus, on lisait en anglais, je pense qu'on écrivait aussi en anglais à l'occasion. Quelques mois plus tard, je pense, on s'est retrouvé à Ottawa, un parti de fans de science-fiction. On a sympathisé un peu plus et à un certain moment, on était jeunes, on avait, 19 ans, 20 ans, on brassait des idées. On a fondé une sorte de club Yanus à deux personnes, l'idée étant que Yanus, c'est l'écrivain à deux visages, et on a décidé d'écrire quelque chose ensemble, sous un nom synthétique, mais qui en fait était tiré d'une nouvelle de Laurent Macalister, Et c'était une nouvelle assez intéressante, une nouvelle qui d'ailleurs était sans titre, dans la mesure où lui-même n'aurait pas voulu que la nouvelle ait un titre, parce que cela renvoyait à l'univers de la nouvelle, une sorte d'univers post-apocalyptique où les survivants d'un cataclysme inexpliqué s'échangeaient des textes, des histoires, qui étaient devenues leur principale forme de récréation culturelle, qu'ils trouvaient essentiellement tout écrit, tout imprimé sur les seuils de porte. Et tout ce qu'il leur restait à faire, c'était de trouver le titre pour ces textes qui s'échangeaient entre eux. Donc le texte lui-même était une nouvelle sans titre, sauf que bon, l'éditeur de la revue qui a publié la nouvelle a décidé de mettre comme titre sans titre, si vous me suivez. Et du coup, on a trouvé amusant pour créer un personnage d'auteur de prendre en fait le nom du personnage de cette nouvelle, qui quelque part, après tout, Laurent McAllister est un auteur qui trouve des textes tout faits, parce que c'est Yves Ménard et moi qui les écrivons pour lui. Et lui, bon, à la limite, on lui donne aussi des titres, parce que bon, l'écrivain n'existe pas, mais ça, on a joué un peu avec tout ça. Donc, et là aussi, la première nouvelle qu'on a écrite ensemble a fonctionné, a été publiée. Et à partir d'un certain moment, on s'est fixé comme règle de ne jamais se répéter, parce que je pense qu'on ne voulait pas se faire dévorer non plus par les attraits de l'écriture à quatre mains. Donc, parce que à quatre mains, en général, ce qu'on a signé a été très bien reçu, assez bien apprécié par toutes sortes de personnes. Il y a une sorte de combinaison qui se fait entre Ménard et moi qui marche, qui en général a assez bien marché. Donc, on voulait pas que nos carrières individuelles soient dévorées par le phénomène McAllister. Donc, on s'est donné pour principe de ne jamais se répéter. Et donc, au fil des ans, on a fait toutes sortes de choses. Un très gros space opéra, Suprématie, paru chez Bragelonne en 2009. Des nouvelles en anglais, des nouvelles en français. Donc, des nouvelles... par exemple, notre première nouvelle était une nouvelle de science-fiction, disons, très classique dans mon histoire du futur à moi. La seconde, bon, je ne m'en souviens plus tout à fait. On a un recueil de McAllister ici en vente à la librairie, Les leçons de la cruauté, qui justement donne une assez bonne idée du spectre de choses qu'on a faites. Il y a une nouvelle essentiellement, Le Pierrot diffracté, qui trois visions d'un monde futuriste assez étrange, avec toutes sortes d'allusions intertextuelles. Et essentiellement, c'est l'idée, et là c'est le physicien qui avait inspiré un peu la chose, c'est que lorsqu'on prend une lame de couteau, une lame en tout cas, et qu'on s'en sert pour diffracter un rayon lumineux, ça produit, si je me souviens bien, Estelle corrigera, une série de points. Et à ce moment-là, la question c'est, lesquels de ces points sont une des questions peut être, lequel de ces points est le véritable faisceau lumineux d'origine? Elles le sont toutes, en fait. Et donc, c'était d'avoir ces trois parties de la nouvelle qui étaient trois réalités absolument équivalentes et réelles. Mais quand on lit ça, c'est très différent parce que les personnages changent presque d'identité et y a des tonalités différentes, des styles différents. C'était aussi... Du côté d'Yves, c'était inspiré aussi par ses lectures de Douglas Hofstadter. Il y a une référence au jeu du nomique. Oui, on brassait beaucoup d'idées, disons, à l'époque. Je viens de parler en bas d'une nouvelle qu'Yves Ménard et moi avons écrite, Capucini et les loups, une nouvelle qu'on a écrite en fait en anglais à l'origine, vers la fin des années 90, j'ai déparlé en bas, et donc qui se situe dans une version assez grinçante et tordue de Vienne dans le futur, où essentiellement une caste d'éco-terroristes a pris le pouvoir et a transformé le cœur de Vienne, c'est-à-dire la ville à l'intérieur du ring de Vienne, dans une sorte d'éco-ville, une ville pas tout à fait biomimétique comme le veut Vincent, mais enfin une sorte d'éco-ville où il y a des rivières qui coulent dans les rues, des arbres qui poussent par les fenêtres des bâtiments. Le zoo du Tiergarten a été libéré et donc il y a quelques fauves aussi qui se promènent et les jardiniers qui portent différents noms d'oiseaux. D'ailleurs, je pense qu'il y a des sortes de modifications génétiques qui sont suggérées. Là, on a fait des jeux de mots en anglais qui se traduisent un peu moins bien en français. La paperasse est gérée par des arbres à fiches, file trees en anglais. Ce qui des arborescences de fichiers, mais ça. Donc c'est un jeu de mots intraduisible. Donc ça c'était aussi donc une autre façon de faire de la science-fiction, et tout ça est raconté sur le ton du conte et de la géographie. C'est une nouvelle qu'on aime bien aussi. Donc on a fait toutes sortes de choses comme ça. Et essentiellement, comme McAllister n'a à peu près, je pense, à peu près jamais connu de refus non plus, la collaboration s'est poursuivie jusqu'à ce que, bon, ben, disons qu'il y a 3 ans, nos vies personnelles ont un peu divergé. Mariage, remariage, déménagement. On a un peu manqué de temps pour retravailler ensemble, mais un de ces jours, je suis sûr qu'on va essayer de se retrouver un peu de temps pour collaborer.
Tu nous parlais de nouvelles en anglais, de nouvelles en français. Et qu'est-ce qui détermine... tu es bilingue.
Oui.
Qu'est-ce qui détermine le choix d'une langue et typiquement, si tu écris en anglais, qui traduit en français tes nouvelles?
Je vais commencer par la dernière question qui est plus simple, plus amusante, parce que maintenant c'est moi qui me traduis de l'anglais au français. Il fut un temps où j'étais jeune et naïf, où je croyais qu'on pouvait faire confiance aux traducteurs professionnels, et je me disais, dans ce cas-là, écoute, je vais mener une carrière sur les deux tableaux et quelque part doubler mes publications si j'arrive à vendre des nouvelles en anglais pour qu'elles soient traduites en français et traduites en français par autrui. Ce sera quelque part une façon pour moi d'écrire une nouvelle et d'obtenir 2 publications. Puis j'ai découvert que certaines subtilités de mes nouvelles pouvaient, qu'un traducteur même professionnel pouvait rater certaines subtilités de nouvelles que j'avais écrites. Il y a une nouvelle qui est parue que j'ai, je pense, quand même un peu réussi à corriger au stade des épreuves, mais qui essentiellement trahissait le projet d'origine. Là, par contre, je pense que c'était un cas contraire. C'était le cas d'une nouvelle en français que, j'avais laissé quelqu'un traduire en anglais. Et puis ensuite, j'ai découvert que, la prochaine fois, je m'en occupe. Depuis, il y a, je pense, peut-être, c'est ça, 2 ou 3 de mes nouvelles qui ont été traduites par autrui. Toutes les autres nouvelles, qui sont en français ou en anglais, lorsqu'il existe une traduction du français ou de l'anglais en français ou en anglais, c'est en 90% des cas, c'est moi qui ai fait la traduction. Savoir comment est-ce que je détermine la langue... je pense qu'il fut un temps où j'avais, plus de temps pour céder à l'inspiration, où parfois il est possible que c'était vraiment l'inspiration première qui me venait dans une langue ou dans l'autre, et après la langue peut déterminer le style. Depuis quand même un certain nombre d'années, c'est plutôt le projet qui détermine la langue. C'est-à-dire, si je vois passer une annonce de un appel à texte pour une anthologie, si l'anthologie est en anglais, j'ai rédigé la nouvelle en anglais. Si l'anthologie est en français, j'ai rédigé la nouvelle en français, je vais pas me fatiguer à l'écrire dans une autre langue puis traduire. De temps en temps, c'est arrivé, j'ai parfois justement, dans 2 ou 3 cas, j'ai avec un appel à texte d'une anthologie, je me suis dit, j'ai une bonne nouvelle en français qui est sur ce thème, je vais la traduire en anglais. Donc, à ce moment-là, c'est plutôt le cas d'un texte disponible que je traduis pour l'anthologie, mais sinon, quand il s'agit d'écrire une nouvelle à Beauvau, à ce moment-là, je vais essentiellement, ça va dépendre des circonstances du projet. Donc, hier soir, j'ai complété une nouvelle en anglais parce que c'était pour un projet d'anthologie en anglais sur les cyborgs. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'ai 2 ou 3 échéances de concours de nouvelles ou anthologies qui sont en français, donc je vais écrire les textes en français. C'est aussi simple que ça maintenant. Je pense qu'Yves, qui est aussi bilingue et qui écrit dans les deux langues et qui a écrit ses principaux romans en anglais, je ne sais pas dans quelle mesure Yves écrit peut-être commence la majorité de ses textes en anglais. Et au besoin, ensuite, les traduit lui-même en français. En partie parce qu'écrire en anglais, si on réussit à vendre ce qu'on écrit, c'est plus payant. Oui, quoique il y a aussi beaucoup plus de compétition. Mais néanmoins, le marché est tellement plus grand que En général, les publications, revues, anthologies en anglais paient mieux.
McAllister écrit en français ou en anglais?
Les deux. Il a écrit, ses seuls livres sont en français, mais il a écrit un certain nombre de nouvelles en anglais, et puis il y a deux ou trois ébauches de textes en anglais qui restent dans nos tiroirs, mais il a écrit effectivement Cappuccini and the Wolf en anglais, et puis la nouvelle que nous avons traduite sous le titre Sur la plage des épaves, ah oui, ça s'appelait Driftplast, ce qui était un hommage à une nouvelle de Samuel Delaney, Driftglass. Donc ça, c'était une nouvelle en anglais. Qu'on a commencé au fin fond du Québec, chez Joël Champetier, rédacteur en chef de Solaris, donc francophone. Mais on a commencé en anglais. Je ne me souviens plus pourquoi. Je pense que... non, je ne me souviens plus pourquoi. Et il y a 100... Peut-être qu'en réfléchissant, je trouverai encore un ou deux textes en anglais de McAllister.
Un auteur de hard SF, comme on dit, essentiellement. J'avais une question concernant les contraintes. Pour certains, la hard science-fiction, c'est on respecte les faits, mais les théories, finalement, on peut plus ou moins les envoyer aller loin dans les théories, voire très loin, voire en faire des théories différentes. Tu fonctionnes comment, toi, par rapport à ce que tu écris? Est-ce que tu respectes les faits et les théories? Comment tu fonctionnes?
C'est complexe. Je dirais qu'il y a en fait plusieurs façons d'écrire de la hard SF, de la SF dure, comme je dis parfois en français. Parce que, bon, d'une part, la définition qui est devenue un peu traditionnelle, donnée par, je pense, c'était Greg Bear ou David Brin, c'était l'idée que la science-fiction dure, c'est de la science-fiction que l'on écrit avec, où on joue au tennis avec le filet tendu à sa hauteur maximale. Alors que parfois, il y a de la science-fiction où essentiellement, on a laissé le filet de tennis tomber, jusqu'à être au niveau du terrain. Et à ce moment-là, c'est très facile de faire passer les balles par-dessus le filet. Alors qu'avec la science-fiction dure, le filet est remonté à sa hauteur maximale et on veut faire passer les balles par-dessus le filet. Essentiellement, on s'impose une contrainte additionnelle qui est de respecter quelque chose de scientifique, il peut y avoir plusieurs contraintes. Disons qu'il y a eu une certaine époque où la science-fiction dure se doublait d'une sorte de visée didactique, c'est-à-dire qu'on allait se servir de la science-fiction pour aussi parler de la vraie science et donc faire presque une sorte de cours. Si on relit les auteurs canoniques de space opéra comme, je pense à E. Doc Smith, il peut très bien introduire une sorte de discussion au passage de trois ou quatre paragraphes sur où il parle de sinus, de tangente, où il fait intervenir la physique relativement, disons, de première année, du niveau du bac, peut-être en termes français. Et là, c'est clairement plus de la vulgarisation que de l'exploitation. L'exploitation de la science, ce serait plutôt... résoudre un problème qui se pose dans le cadre du roman avec en invoquant une règle ou une loi scientifique. Bon, par exemple, je me souviens d'un roman de Greg Benford où un de ses personnages se retrouvait sur une planète qui était en train d'être transpercée de bout en bout par des extraterrestres d'une grande puissance. Et à un moment donné, notre personnage, qui était dans un scaphandre assez miraculeux par ailleurs, se retombait dans ce puits et tombait dans ce puits qui traversait donc toute la Terre. Et pour ceux qui ont fait un peu de physique comme Estelle, on reconnaîtra peut-être un problème qui a souvent été posé aux écoliers, aux élèves, enfin aux étudiants de physique, c'est-à-dire quel serait le temps de chute et où aboutit le personnage en question qui tombe comme ça. Est-ce qu'il s'arrête au centre de la planète? Est-ce qu'il continue? Est-ce que c'est un mouvement en fait alternatif? Je vous laisse reprendre vos cours de physique. Mais dans le cadre du roman, je pense que Benford, je suis même pas sûr s'il ne donnait pas l'équation en tant que telle, mais à tout le moins, ayant mis son personnage dans cette situation, expliquait ensuite la physique de la situation. Je pense qu'on peut dire que c'est de la science-fiction pas mal dure. Cela dit, moi, ça m'arrive de faire cela, mais il y a aussi, je dirais, La science-fiction dure, enfin, il reste deux sortes de science-fiction dure dont je parlais. Celle qui exploite la science actuelle et celle qui reproduit la science actuelle ou imite la science actuelle. Et là, je vais parler de Greg Egan. Pas toujours, évidemment, mais enfin, on va y revenir. Donc, il y a la science-fiction qui utilise la science actuelle pour faire reposer, disons, un univers du futur ou une situation dans le roman sur un élément scientifique actuel, peut-être de pointe. Et c'est ce que je fais de temps en temps, et je pense que c'est pour ça que j'ai acquis cette réputation que je considère parfois un peu imméritée d'écrivain de science-fiction dure. C'est peut-être parce que les écrivains français peut-être le font nettement moins que moi encore, alors, par comparaison. Il y a des choses parfois qui sont trop simples. J'étais en train de penser au roman que je viens d'écrire, enfin, la nouvelle que je viens d'écrire. Qu'est-ce que j'ai fait récemment comme nouvelle? Le problème, parfois, c'est qu'on... Bah, tiens. Ou sinon, parfois, se servir de la science pour crédibiliser quelque chose. Alors, par exemple, j'ai soumis une nouvelle récemment à la revue Galaxy, ici en France, qui se passe dans des villes flottantes sur Vénus. Quand on dit flottante, on ne veut pas dire sur la mer, parce qu'il n'y a pas de mer sur Vénus, mais il existe un niveau des nuages où les températures sont à peu près, correspondent à peu près aux températures terrestres, mais c'est une atmosphère essentiellement composée de dioxyde de carbone, donc, et le poids moléculaire du dioxyde de carbone est quand même CO2 plutôt que O2, donc, supérieur à celui de la molécule d'oxygène, donc c'est une atmosphère assez dense. Et donc, on peut, disons qu'un ballon gonflé d'oxygène, il flotterait sans difficulté. Et si on faisait quelque chose de beaucoup plus gros, on peut imaginer faire flotter dans ce genre d'atmosphère des villes entières, à condition d'avoir suffisamment de volume enclos et quand même de bien calculer la charge. Et à un moment donné, pour une scène, j'ai voulu déterminer quelle était jusqu'où le regard porterait dans cet environnement nuageux, en fait, parce que là on est quand même dans les nuages de Vénus. Et bon, j'ai réussi à trouver quelques données sur essentiellement comment est-ce qu'on dit ça encore, il y a différents termes, l'épaisseur optique des nuages, et puis aussi bon, comment ça se compare à la visibilité, disons, ici sur Terre, en termes de quand il pleut ou qu'il y a de la brume. Bon, quelques calculs plus tard, j'ai trouvé qu'en théorie, ça m'a étonné un peu moi-même, mais qu'à l'altitude où ils étaient, ils devraient quand même être capables de voir jusqu'à 20 km. Ça, c'est ce qui, à la fois, évidemment, c'est relativement brumeux, parce que nous, ici sur Terre, par temps clair, on peut voir on peut voir essentiellement jusqu'à la sortie de l'atmosphère, on peut voir la Lune, le Soleil. Néanmoins, ça semblait plus élevé que je recrue. Et ça, donc, ce calcul-là, je ne le mets pas dans la nouvelle, mais je l'ai fait. Et même s'il n'est peut-être pas garanti à 100%, je pense qu'il doit être relativement correct. Et j'ai mis le résultat de ce calcul dans la nouvelle. Une lectrice extrêmement perverse pourrait s'amuser à refaire le calcul et à vérifier si j'ai sorti ce chiffre de ma tête ou pas. Et peut-être, ce serait intéressant de le savoir d'ailleurs. Deux têtes valent mieux qu'une. Et finalement, quand on parle de science-fiction dure, je penserais aussi à quelque chose que, par exemple, Greg Egan a fait dans, je pense, en anglais, c'était Distress, je pense. En français, c'était L'énigme de l'univers. Et ça revient à ce que disait Estelle. Il a pris essentiellement une des théories cosmologiques en vogue de l'époque, à l'époque où il a écrit le roman, et il l'a décalqué pour essentiellement garder un peu... la même finalité, le même genre d'approche, mais à l'époque où je l'ai lu, c'était clair pour moi que ce n'était pas une des théories cosmologiques actuelles, ou sinon c'était quelque chose que très peu de personnes partageaient, mais il s'en sert pour à la fois tirer des conséquences intéressantes pour le roman et aussi pour démontrer comment, disons, sociologiquement et intellectuellement les scientifiques fonctionnent. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans une partie des romans de science-fiction, c'est non pas nécessairement une description de la façon dont la science fonctionne, mais une description dont la recherche scientifique fonctionne. Kim Stanley Robinson a essayé de faire ça dans plusieurs de ses romans. Je pense que c'était le deuxième roman beaucoup de Mars, la trilogie martienne, et Antarctica aussi. Là, il s'est inspiré en partie d'ailleurs de théoriciens français comme Bruno Latour, ce qui peut être un peu controversé. Mais donc, ça fait partie du dialogue justement de la science-fiction avec la science, avec l'histoire des sciences, avec l'épistémologie des sciences.
Alors justement, tu me permets de lancer une question à ce propos. Tu es historien des techniques, tu es épistémologue. Est-ce que ça inspire ton œuvre? Est-ce qu'il y a des messages liés à l'histoire des sciences que tu souhaites faire passer dans tes romans, dans tes nouvelles? Et voilà, enfin, comment une de tes passions alimente la seconde?
Le problème, c'est que l'histoire des sciences et des techniques, c'est quelque chose qui est arrivé relativement tardivement dans mon évolution personnelle. Parce que bon, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais plus plongé dans les sciences naturelles. Après ça, j'ai pris un virage vers l'histoire et la philosophie des sciences et des techniques. Mais d'une part, j'avais déjà accumulé un certain stock déjà d'idées, de nouvelles, de situations que rien que pendant les quelques années, même après mon départ d'astronomie, j'ai eu encore 2 ou 3 années pour épuiser ce stock. Et l'histoire des sciences et des techniques, je pense, effectivement, alimente désormais une partie de ma fiction. La prochaine nouvelle sur laquelle je vais travailler, peut-être, ou l'après-prochaine, elle n'est pas, parce que celle-ci, l'échéance est un peu moins claire, et je pense que si je la termine demain ou après-demain, ça devrait aller. Ce serait une nouvelle qui se passe dans l'Antiquité à Alexandrie, avec des touristes extraterrestres qui débarquent à Alexandrie, avec des sortes de costumes, des scaphandres d'apparence humaine, et l'un d'eux ayant modélisé l'histoire, le futur de la civilisation sur la Terre, dit « Ah ben non, on va pas laisser un âge des ténèbres s'abattre sur cette brillante civilisation romaine ou gréco-romaine, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et comme par hasard, ils ont atterri à Alexandrie du vivant de Ptolémée, Donc le fondateur de ce qu'on a appelé le système ptoléméen en astronomie, donc la Terre au centre de l'univers, les autres planètes qui tournent autour de la Terre, le Soleil qui tourne autour de la Terre, un système d'épicycle et autres qui est relativement fonctionnel, efficace du point de vue de la prédiction des phénomènes, comme disaient les Grecs, mais quelque chose qui, par contre, était très difficile à justifier physiquement. Et qui, quelque part, peut-on dire que ça a retardé, le progrès des sciences et des techniques durant les siècles suivants? Bon, ça, faudrait pas me le demander à moi avec mon chapeau d'historien, mais avec mon chapeau d'auteur de science-fiction, je pense que je vais essayer de changer l'histoire du monde. Peut-être que Ptolémée va être assassiné, ou en fait, peut-être que nos extraterrestres vont déclencher et vont simuler une éclipse avec leur vaisseau spatial que le système de Ptolémée n'aura pas évidemment pu prédire. D'où perte de crédibilité de Ptolémée et puis changement de l'histoire. Ça m'arrive de laisser l'histoire des sciences alimenter mes fictions, mais c'est pour une anthologie thématique et j'ai abouti avec cette idée-là.
Tu parles d'anthologie thématique, tu parles finalement de beaucoup de concours de nouvelles auxquels tu réponds. Est-ce qu'il y a des nouvelles que tu aimerais faire, mais où tu te dis je ne suis pas sûre de pouvoir la publier, donc je vais plutôt en direction d'une, une invitation à écrire des nouvelles d'un certain type sur une certaine thématique, tu vas vers ça ou est-ce... Comment tu gères les deux et dans quelle mesure tu prends plaisir?
L'avantage des anthologies, c'est qu'il y a une date limite, donc ça vous oblige à écrire et à terminer quelque chose, parce que sinon, effectivement, j'ai quelque chose comme... deux, trois douzaines peut-être de débuts de nouvelles qui sont encore en chantier, qu'un jour je terminerai, parce qu'il m'arrive d'ailleurs de terminer des choses qui sont restées en chantier pendant des années. Mais effectivement, il m'arrive de commencer une nouvelle avec peut-être une inspiration d'un moment. Ça peut être une image, une couleur, un incident. J'ai eu à un moment donné l'image sur Mars d'un canyon... Peut-être pas le plus grand canyon martien, mais un canyon martien relativement grand sur lequel on aurait tendu un pont de fil de nanotubes, et à ces nanotubes, on aurait accroché des bâtiments. Donc les gens vivraient un peu à l'inverse que dans nos bâtiments actuels, c'est-à-dire que pour... pour remonter à la rue, donc le pont de Nanotube, il faudrait monter. Et sinon, le bas du bâtiment serait la partie du bâtiment qui surplomberait le vide jusqu'au pied du canyon. Et là, j'ai eu l'idée à un moment donné d'une petite fille qui se retrouve sur un balcon et qui se fait enlever par un engin volant par quelqu'un qui habite un peu plus haut. Et bon, j'ai fini par déterminer qu'est-ce que je vais faire comme histoire à partir de ça. Mais à l'origine, il y a vraiment un peu ce cadre, ce moment dramatique d'un enlèvement. Une petite fille qui disparaît du balcon où elle est sortie peut-être tendre le linge ou jouer un moment, sa mère a tourné le dos et hop, sa fille a disparu dans les airs essentiellement.
Tes inspirations viennent de la technique ou la technique se met au service de ton histoire? Comment tu articules les deux?
Je lis beaucoup de revues, je lis quand même un certain nombre de revues scientifiques et techniques. Je suis abonné à Scientific American, Discover, Popper Science, et je pense que c'est tout, plus évidemment ce que je vois passer sur Internet. Il y a peut-être autre chose, mais enfin, autrefois, il y avait des revues de sociétés savantes dont j'étais membre, et il y a aussi les revues des universités dont je suis diplômé, qui au Canada, les universités, parfois gardent le contact avec leurs diplômés en envoyant des revues, disons 3 ou 4 fois par année, et ces revues souvent vont présenter les travaux scientifiques, érudits, savants que font ces universités. Et donc parfois c'est aussi un moyen de tomber sur des idées intéressantes. Donc avec la lecture de ces revues, il m'arrive parfois de noter au passage, tiens, ceci c'est quelque chose qui m'inspire une idée, disons une exploitation technique quelconque, je me dis, ça rejoint un de mes romans ou de mes nouvelles en travail, ça pourrait être une justification de quelque chose, ou ça pourrait être, ça pourrait ajouter quelque chose à la nouvelle. Par exemple, la nouvelle que j'ai écrite hier, dans une des revues que j'ai vues passer, il y avait un reportage sur le développement de vaccins pour essentiellement guérir l'accoutumance aux drogues. L'idée étant qu'avec, je pense, le choix d'un antigène particulier, et peut-être, je ne me souviens plus exactement comment ça fonctionne, mais essentiellement l'idée étant qu'avec un peu plus d'efforts que pour des vaccins, disons, standardisés, on a pu mettre au point des vaccins qui essentiellement apprennent, préparent, stimulent le système immunitaire pour qu'essentiellement, si on s'injecte une dose de cocaïne, le système immunitaire va essentiellement aller prendre toutes ces molécules de cocaïne et on n'éprouvera aucun effet. Les molécules de cocaïne ne vont pas se rendre aux neurorécepteurs dans le cerveau. Et donc, il y a eu quelques expériences, y compris justement avec des drogués qui parfois retombaient et qui s'injectaient des doses 2 ou 3 fois supérieures aux doses létales, mais leur système immunitaire absorbait la drogue avant qu'elle puisse produire des effets. Donc, ceci m'a donné une idée pour, disons, un rebondissement dans la nouvelle que j'écrivais. Donc, ça, c'est un peu un exemple de la façon dont ça fonctionne.
J'ai une question encore sur la puce sur le jeu entre littérature jeunesse et littérature adulte, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis dans un cadre que tu t'autorises dans l'autre ou pas?
De nos jours, franchement, il n'y a plus grand-chose qu'on s'interdit en principe en littérature jeunesse. Disons qu'en littérature jeunesse, j'évitais certaines choses. Est-ce que je me les interdisais tout à fait? Peut-être pas. Disons, c'était l'idée que il y avait relativement peu d'intrigues amoureuses très poussées dans mes romans jeunesse. Cela dit, peut-être que c'est pour ça qu'ils se vendaient pas beaucoup. On va essayer de reprendre ça dans les prochains. Et aussi, la langue était un peu simplifiée. Et aussi, je pense que l'idée était intrigue linéaire, relativement linéaire, donc pas nécessairement beaucoup de retours en arrière. Cela dit, avec cette idée d'intrigue linéaire et d'éviter les retours en arrière, on est aussi plus ou moins dans certains principes de la littérature populaire. Je me souviens de l'époque où Heyerdahl, en lisant par exemple justement une des premières ébauches de Suprématie, me disait: ah ben non, là tu fais un flashback avec tes personnages, un retour en arrière, si tu veux que ce soit acheté par, bon, je sais plus pour qui on visait à l'époque, c'était longtemps avant la publication de Bragelonne, avant la fondation des éditions Bragelonne, l'idée étant, bon, il faut quelque chose de linéaire pour faciliter la lecture pour le lecteur lambda. Donc et en tout cas, c'est dans un roman pour adultes, je ne me l'interdis pas de toute évidence, mais dans un roman pour jeunes, effectivement, sauf dans certaines circonstances bien spéciales et peut-être bien préparées, je pense que j'aurais effectivement tendance à éviter ça. Et puis, il y a le niveau de langue que oui, et on m'a d'ailleurs... J'essaye d'éviter justement des phrases trop longues, un vocabulaire trop recherché. Et même alors, on m'a parfois reproché dans mes romans pour jeunes un vocabulaire trop recherché. Un pot de terre cuite vernissée, le mot vernissé était clairement trop recherché pour les jeunes lecteurs. J'ai retenu cette critique. Mais donc, je dirais que ce serait les trois caractéristiques. Également aussi, bon... Encore une fois, on est à la limite du roman populaire et du roman pour jeunes, c'est-à-dire aussi un autre principe, c'est d'avoir une intrigue qui se termine, d'avoir une conclusion, de ne pas avoir une fin ouverte, et aussi de préférence d'avoir une fin relativement heureuse, c'est-à-dire le héros ne meurt pas à la fin, c'est relatif, disons que c'est quelque chose qu'on évite. Un héros qui meurt à la fin, c'est quelque chose qu'on éviterait tant dans une littérature populaire que dans un roman pour jeunes, parce que beaucoup de lecteurs, a priori, n'aiment pas trop ça. Harry Potter survit jusqu'à la fin de la série.
Et pour les adultes, par contre, la survie de ton héros n'est pas un problème.
Ah oui, voilà. Tu as lu Suprématie? Mais bon, c'était peut-être un anti-héros, en fin de compte.
C'est pas connu. En parlant de ça, justement, est-ce qu'il y a des choses... Parce que écrire tout seul et écrire à deux, est-ce que ça pose des contraintes ou est-ce que ça libère d'un certain nombre de contraintes sur l'écriture comme... Est-ce qu'il y a des choses que tu t'autorises avec Yves que tu aurais du mal à faire seul?
Je ne crois pas. Je pense que plutôt c'est très jouissif d'écrire à deux, à deux et à quatre mains. Parce que essentiellement, c'est pour un écrivain, c'est merveilleux parce que quand tu écris, un écrivain, tu es tout seul, tu dois tout écrire du premier mot jusqu'au dernier mot, alors que lorsque tu écris à deux, comme par magie, il arrive dans ta boîte à lettres d'ordinateur des choses qui sont déjà écrites. C'est merveilleux, il n'y a plus qu'à faire la moitié, tu ne fais que la moitié du travail. Mais sinon, effectivement, côté inspiration, libération... Il y a peut-être dans une certaine mesure une certaine libération dans la mesure où Yves peut se décharger sur moi, disons, du galimatia scientifique et peut-être que je me suis à l'occasion déchargé sur Yves pour les passages particulièrement poignants et sentimentaux.
Ah oui? il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce que dans l'auditoire, il y aurait des questions ou des envies, des choses que vous voudriez absolument savoir et que je n'ai pas posées?
Oh, ils sont timides. Bon, ben, il va falloir que tu m'en poses d'autres.
C'est facile d'en trouver des questions. C'est une question un peu décalée qui est liée à la présence du grand frère américain à côté. Tu me disais que tu avais été finalement le premier éditeur de tes romans est un Français, c'est Fleuve Noir.
Oui, effectivement.
A priori, du coup, pour un Canadien, la difficulté de se faire éditer en français ne semble pas être très difficile. Aux États-Unis, comment ça se passe?
C'est une question compliquée. D'une part, en fait, le même mois, en 1994, j'ai fait paraître un roman pour adultes au Fleuve Noir et un roman pour jeunes chez un éditeur québécois. Donc, déjà, il y avait une sorte de partage. Ensuite, ma mère est française, j'ai des racines en France et Pour toutes sortes de raisons, au début des années 90, j'ai fréquenté le milieu français d'assez près, donc certaines personnes me connaissaient, d'autres personnes ont pu me recommander, j'ai croisé certaines personnes, et puis aussi le milieu québécois tel qu'il s'est développé dans les années 70 et 80 reposait en partie sur l'activité de Français immigrés au Canada, entre autres Norbert Spener qui a fondé la revue Requiem qui est devenue Solaris, Élisabeth Von Arbour qui a éventuellement repris Solaris et qui a fondé les Congrès Boréal, Jean-Marc Gouinvic qui a cofondé la revue Imagine, et Jean-Marc Gouinvic avait d'abord un Français d'origine qui a fait une thèse sur la science-fiction en France et qui a conservé des contacts avec par exemple Stéphane Nico à l'époque, avant que ce soit Stéphanie. Et ils ont fait des choses ensemble, les anthologies, les espaces imaginaires, entre autres. Donc, il y avait des contacts relativement suivis entre la France et le Canada à cette époque. Donc, j'en ai bénéficié dans une certaine mesure, mais je pense aussi qu'il y avait un tropisme, c'est-à-dire que certains de mes collègues québécois, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas être publiés en France, mais que pour eux, c'était un pays étranger et ils ne cherchaient pas non plus spécialement à être publiés en France. Moi, dans une certaine mesure, je pense que j'ai peut-être fait un effort supplémentaire parce que pour moi, la France n'est pas un pays étranger. En partie oui, en partie non, c'est compliqué aussi. Du côté américain, je n'ai pas publié de livre aux États-Unis. Yves, mon collaborateur, oui, l'a fait. Je pense, dans une certaine mesure, c'est aussi une question de contact personnel, de socialisation et aussi de ce qu'on vise. À ma connaissance, Yves n'a pas de racines aux États-Unis, mais il parle parfaitement anglais. Et dès les années 80, lui et moi, et éventuellement lui plus que moi, avons fréquenté des congrès de science-fiction américains ou anglophones, donc aux États-Unis ou au Canada, mais en anglais. Et dans ces congrès au Canada en Amérique et aux États-Unis, évidemment, on croise des auteurs nord-américains, des éditeurs nord-américains, des directeurs littéraires nord-américains. Et dans ces congrès, ils parlent assez souvent justement de la façon de fonctionner du milieu de l'édition états-unien nord-américain. Donc, Yves écrivant en anglais et dans une situation où, en fait, il n'y avait à peu près aucun éditeur de science-fiction, de livres de science-fiction au Canada, en fait, en anglais, et très peu en français. Yves a assez naturellement soumis certains de ses premiers romans à, entre autres, à un directeur littéraire qui venait dans des congrès au Canada, qui était sympathique, dirons-nous, à la science-fiction canadienne. Et donc, il y avait un contact qui s'est concrétisé quand Yves a soumis un manuscrit. J'ai d'ailleurs traduit un roman de Joël Champetier, un autre auteur québécois en anglais, qui est paru donc chez Thor. Thor qui publie George R. R. Martin, toutes sortes de grands auteurs des États-Unis, et qui a donc publié en fin de compte maintenant deux romans d'Yves Ménard, mais des romans de fantasy, un roman de science-fiction de Joël Champetier, donc déjà trois romans de québécois francophones. Et Bantam, à l'époque, avait début des années 90, c'est-à-dire, avait aussi publié, là aussi, je pense que c'était essentiellement la conséquence de contacts noués dans les congrès de science-fiction, a publié trois romans d'Élisabeth Von Arbour traduits en anglais. Là, disons que c'était quelque chose d'assez compliqué parce que Yves écrivait directement en anglais, moi, j'avais traduit le roman de Joël, et je l'avais fait à titre, on pourrait dire, à moitié gracieux, mais pour les romans d'Élisabeth, il avait fallu trouver un traducteur subventionné et donc l'entente avait éventuellement inclus un éditeur canadien en plus dans le circuit pour que le roman soit publié au Canada, subventionné au Canada et que la traduction anglaise paraisse aussi aux États-Unis. Sinon, ça n'aurait pas été faisable. Comme le savent sans doute beaucoup les auteurs français dans ce congrès, c'est si on envoyait un... Les éditeurs américains ne vont pas publier un roman qu'on leur envoie en français. Ils refusent d'assumer les coûts de la traduction. Donc, voilà pourquoi essentiellement la publication d'auteurs français aux États-Unis est extrêmement, depuis 30 ans à peu près, 30 à 40 ans, extrêmement rare. pour ne pas dire pratiquement, pratiquement absente.
Jean-Louis, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu auras envie de partager des choses avec notre auditoire sur des éléments dont je n'ai pas parlé ici?
Non, moi je suis...
Comment tu conseillerais par exemple à quelqu'un qui voudrait découvrir ton œuvre? Hmm.
Bon, bah d'accord. Ça dépend, disons, du genre de lecteur, du genre de lectrice. Si on est prêt, effectivement, à s'attaquer à un gros roman de space opéra avec un peu de science-fiction assez dure et un cadre assez exotique, pourquoi ne pas acheter Suprématie chez Bragelonne? C'est dense, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'action et de choses intéressantes. Si on veut plutôt découvrir le côté des nouvelles, ici, on a en vente le recueil de McAllister, Les leçons de la cruauté. Ce sont des nouvelles un peu atypiques par rapport à, disons, peut-être le reste de ma production de nouvelles, mais quand même, c'est, je les ai coécrites, donc ça ne me trahit pas complètement, impossible. Il y a l'anthologie des Utopiales de cette année, à une courte nouvelle inédite que j'ai écrite pour l'Anto. C'est une nouvelle un peu plus expérimentale, c'est un peu un coup de poing qu'on aimera ou qu'on n'aimera pas. Et là aussi, j'aurais tendance à dire qu'elle est un peu atypique par rapport à une partie de mes nouvelles de science-fiction qui sont un peu plus carrées dans mon histoire du futur, action dans l'espace, alors que là, c'est une nouvelle qui se déroule, disons, dans un futur proche. Au-delà, bon, ça, c'est les principaux ouvrages en vente ici. Après, il faudrait passer par, je pense, les commandes Internet. J'ai un recueil de nouvelles, Les marées à venir, publié au Canada, mais qu'on devrait pouvoir trouver sur Internet et commander, je ne sais pas à quel prix, qui est un recueil de nouvelles, là, et là, je dirais, oui, relativement typique d'une la moitié de ma production, disons. C'est un recueil qui exclut mes nouvelles appartenant à mon histoire du futur, mais c'est un recueil qui, entre autres, intègre certaines des thématiques que j'ai beaucoup creusées ces dernières années, des thématiques écologiques, entre autres, donc plusieurs aperçus possibles de futurs où il y a eu où le réchauffement climatique a sévi et a entraîné des transformations du monde, plus quelques futurs relativement proches, mais un peu exotiques. Donc, ouais, ça. Après, il y a les romans pour jeunes, effectivement, qui, eux aussi, devraient... C'est peut-être possible de les commander. C'est une question compliquée parce qu'il y a eu, à un moment donné, une exclusion de la France des droits CD. Donc, certains romans ne sont pas nécessairement disponibles en France, mais cherchez sur Amazon.fr, voir peut-être ce qui sort, ou sur Amazon.ca, et on verra bien ce qui sort. Mais sinon, Marée à venir, Suprématie, Les leçons de la cruauté, trois titres à retenir si ça vous semble intéressant.
Et tu es en signature tout de suite, si vous
voulez. Oui, je vais courir à une table dans la librairie maintenant.
Donc, je pense qu'on peut remercier Jean-Louis très fort pour...
Merci à vous. À bientôt, j'espère.